Bonjour à toutes et à tous sur les ondes de Radio G101.5 FM. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la toute première émission de l'année 2023 des Plantes Vagabondes, une émission proposée par l'association Le Plantis à Écuyer, le coworking rural collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et aujourd'hui avec Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue, qui est en charge de la console et que vous retrouverez aussi en fin d'émission dans la chronique « Le bonheur est dans les simples ». Rien de tel pour débuter l'année qu'une citation nous invitant à mettre en action nos résolutions. Henri David Thoreau, célèbre philosophe naturaliste et poète du XIXe siècle, continue encore aujourd'hui à être une source d'inspiration précieuse pour de nombreux écologistes. Je vous laisse en préambule partager avec vous cette citation de lui. « Si vous avez construit des châteaux dans les nuages, votre travail n'est pas vain. C'est là qu'ils doivent être présents. Donnez-leur des fondations. » Et si ces fondations prenaient naissance dans la nature, sa générosité et sa créativité, telles des racines solides et nourricières pour irriguer vos projets. Bon allez, il est temps de partir retrouver la mélisse, la plante plébiscitée par les abeilles, celle qui a pour pouvoir de donner la joie de vivre. Un bon début, non ? Monsieur de la Palisse, dégourdi sans malice, cultive avec délice les lys, les amaryllis et les volubilis, la réglisse pour Alice, mélie, mélilo, mélisse. Rien de tel qu'un joli poème pour commencer une émission. Celui-ci, écrit par Robert Desnos, est extrait du recueil Chante-fables et Chante-fleurs, publié en 1952. Plante vivace et rustique, la mélisse pousse naturellement dans les sous-bois, le long des haies et des fossés. Cousine de la menthe, avec laquelle certains promeneurs la confondent, elle s'en distingue pourtant facilement. En effet, lorsque l'on froisse son feuillage, elle dégage une odeur citronnée, proche du parfum de la citronnelle. Cette caractéristique lui vaut d'ailleurs le surnom d'herbe à citron ou de mélisse citronnelle. Dotée de puissants rhizomes, la mélisse se propage facilement en émettant de nouvelles tiges à intervalles réguliers. Chaque pied peut ainsi générer une nouvelle plante. Les tiges dressées forment des touffes qui peuvent atteindre de 30 à 80 cm selon le sol. Comme toutes les lamiacées, elles sont de section carrée. Une vraie découverte à faire avec les enfants qui découvrent ainsi émerveillés toute la diversité des formes dans le monde végétal. Chaque tige porte de jolies feuilles gaufrées au bord crénelé, au vert tendre, qui ressemblent à celles de la menthe sauvage ou de l'ortie. Elles poussent souvent opposées deux à deux. Chaque étage de feuilles est perpendiculaire au suivant. On dit qu'elles sont opposées décussées. La saison estivale voit apparaître des épis de discrètes fleurs blanches ou roses aux deux lèvres caractéristiques de la famille des lamiacées. La floraison peut se poursuivre jusqu'en septembre. Si vous souhaitez cultiver la mélisse pour ses feuilles ou tout simplement éviter qu'elle se ressème, vous pouvez couper les épis en fin de floraison pour que les abeilles en profitent quand même juste avant la formation des graines. Ces dernières, petites et noires, se propagent très facilement et germent dès qu'elles trouvent un lieu chaud et abrité. Toutes les parties de la plante se bouturent, avec quand même une préférence pour celle des racines. Si l'hiver est froid, le feuillage peut sécher et disparaître. Ne pas hésiter à rabattre les pieds que vous souhaitez conserver. Elles n'en seront que plus belles au printemps suivant. La mélisse est une plante odorante aux multiples vertus qu'il faut avoir dans son potager. En évitant de la mettre, si possible, près d'une sauge ou d'une lavande, dont elle inhibe la croissance. Allez, il est temps de retrouver Anne Sylvestre, la chanteuse préférée des plantes vagabondes, et son titre « Les herbes ».
Le père persil, romarin ont poussé dans mon jardin. À côté de la sarriette, à deux pas de l'estragon, pas loin de la ciboulette et derrière le rang d'oignons. Ah, les herbes, 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 les herbes sentent bon. J'ai perdu le basilic, mais son odeur me conduit. J'ai aussi la marjolaine, elle a fleuri ce matin. Le cerfeuil a de la peine à pousser, mais pas le thym. Ah, les herbes, 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 les herbes sentent bon. La mélisse vient très bien, le fenouil sur le chemin. Attends qu'on le décortique et qu'on le mette à sécher. Je préfère l'angélique et ses fleurs toutes sucrées. Ah, les herbes, 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 les herbes sentent bon. J'ai aussi la camomille pour blondir les cheveux des filles. La verveine et la lavande jouent à parfum, que veux-tu. Et je vais cueillir la menthe cachée tout au bord du rue. Ah, les herbes, 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 les herbes sentent bon. J'ai encore dans ma cuisine le soja qui vient de Chine, la girofle et le coriandre, la cannelle et le safran, la vanille au goût si tendre et le dangereux piment. Ah, les herbes, 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 les herbes sentent bon. Les parfums et les saveurs sont comme autant de couleurs ou de notes de musique qui me feront voyager dans les pays exotiques ou bien dans mon potager. Oh, les herbes, 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 les herbes sentent bon.
Originaire du bassin méditerranéen, la mélisse est connue depuis l'Antiquité. Les Grecs l'utilisent sous le nom de mélissophyllon, ce qui signifie littéralement « feuille d'abeille », un nom qu'elle a conservé jusqu'à nos jours, et d'ailleurs très bien choisi lorsque l'on connaît l'appétence de ces dernières pour les fleurs de la mélisse. Bien connue des apiculteurs, la mélisse est une plante mellifère réputée qui aurait les mêmes propriétés thérapeutiques que le miel et la gelée royale. Le miel de mélisse est d'ailleurs réputé pour son goût et sa saveur exceptionnelle. La fleur de mélisse, riche en nectar et en miella, attire de nombreux butineurs, à tel point qu'on la surnomme le piment des abeilles. La mélisse entre d'ailleurs dans de nombreuses recettes à tire essaim. Autrefois, on frottait la nouvelle ruche avec des touffes de feuilles fraîchement cueillies au bord des chemins, pour faciliter l'installation d'un essaim récemment capturé. Plante aromatique préférée de Charlemagne, la mélisse possède des vertus thérapeutiques très appréciées et abondamment décrites au fil des siècles. Le célèbre médecin et philosophe perse du Xe siècle, Avicenne, écrit « Elle est propre à ranimer le courage, relever les forces, chasser les soucis. » Selon Hildegard de Bingen, on est enclin à rire lorsque l'on a mangé de la mélisse, car elle réjouit le cœur. Elle mérite donc le nom de consolatrice du cœur. Les pouvoirs exceptionnels de la mélisse sont tels que rapidement, les moines cherchent à l'incorporer à des breuvages et liqueurs, de façon à pouvoir bénéficier de ses effets digestifs et antispasmodiques toute l'année. C'est ainsi qu'en 1611, les moines de la Chartreuse des Carmes commercialisent la liqueur de la Chartreuse et que, en parallèle, les bénédictins concoctent la recette de la bénédictine. Au XVIIe siècle, la cour s'entiche de l'eau de mélisse des Carmes, qualifiée de véritable élixir de santé ou même d'or potable. Elle soulage les migraines et réanime les femmes victimes de syncopes souvent provoquée par l'usage des corsets trop serrés. Richelieu lui-même en conservait dans un flacon à portée de main pour apaiser ses migraines. Plantes amies des femmes, la mélisse, associée à la menthe et à la sauge, calme les nausées de la grossesse et les règles douloureuses, favorise la conception et le postpartum. En tisane le soir, elle apaise le système nerveux et prépare au sommeil. Pour compléter ce propos sur les plantes qui soignent, je vous invite à écouter cette interview de Samuel Guède, élu à Baugé-en-Anjou, pour nous parler de l'apothicairie de Baugé-en-Anjou, justement. Bonjour Samuel Guède, vous êtes adjoint à la communication pour la commune de Baugé-en-Anjou. Et voilà, bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes. Et donc vous êtes, en fait aujourd'hui je vous interview concernant justement un équipement historique que vous avez sur votre commune, qui est l'apothicairerie. Et donc j'aurais voulu que vous nous expliquiez justement en quoi consistait l'apothicairerie.
Alors l'apothicairie de Baugé-en-Anjou, donc pour la situer un petit peu, elle fait partie d'un ensemble avec l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Lui fut construit en 1643 sous l'impulsion de deux femmes, donc Marthe de la Beauce, qui était une religieuse beaugeoise, et Anne de Melun, qui était princesse d'Épinois, et du coup elle souhaitait que ce lieu soit un lieu d'accueil et de soins pour les Beaugeois et les gens qui habitaient aux alentours. Donc l'apothicairie qui est donc à l'intérieur, donc elle est aujourd'hui considérée comme l'une des plus anciennes et des mieux conservées de France. Et donc depuis 1675, elle présente plus de 650 contenants dans lesquels on trouve de très nombreuses plantes médicinales. Donc ces contenants, ça s'appelle des silènes, donc ils sont des boîtes en bois de châtaignier et qui permettent donc de stocker les plantes à l'abri de la lumière, de l'humidité et des insectes. Et on trouve d'ailleurs une silène aujourd'hui qui conservait de la mélisse, donc mélissae en latin.
Ah ben ça c'est presque comme de l'archéologie en fait, on trouve des végétaux qui n'ont pas bougé depuis l'époque en fait alors.
Exactement. On trouve aussi beaucoup de plantes aux vertus thérapeutiques inconnues depuis l'Antiquité. Hein. Donc on avait de l'ail, du fenouil, du chanvre qui venait de Mésopotamie par exemple, ou encore la rhubarbe, de l'opium, cannelle de Chine, ou encore des plantes d'Arabie comme la verveine, le camphre et le safran.
D'accord. Et vous, j'ai vu aussi qu'il y avait aussi un jardin extérieur où il y a des plantes qui sont un petit peu recultivées.
Alors pour la sœur apothicaire, en fait, elle assurait l'approvisionnement de ses plantes en fonction de ses besoins. Donc elle pouvait s'approvisionner à différents endroits. Donc elle pouvait aller chez le droguiste, par exemple, ou s'approvisionner via des apothicaires itinérants. Mais elle pouvait aussi cultiver elle-même dans le jardin de l'Hôtel Dieu, elle-même ses plantes pour faire ses préparations. Donc après, je peux continuer sur l'apothicaire hein, qui avait surtout une bonne connaissance de toutes ces substances et qui utilisait aussi donc aussi bien des substances végétales, minérales ou animales. Donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi des choses un peu particulières aussi très mystérieuses. On peut trouver des sang de dragon, des doigts de momie ou encore des yeux d'écrevisse dans ce qu'elle pouvait stocker dans l'apothicaire. Et ensuite, l'apothicaire, donc, elle utilisait son codex. Donc, son codex était un peu sa bible où elle pouvait retrouver toutes les préparations médicales en fonction des maladies qui étaient répertoriées à l'époque. Et elle pouvait préparer ses mélanges à partir de ça. Donc l'idée, c'était qu'elle réduise d'abord sa plante en poudre dans un mortier. Et ensuite, elle préparait soit des pommades ou soit des sirops. Donc, elle mélangeait cette plante réduite en poudre avec du miel, du vin ou de la graisse animale pour les pommades, et de l'alcool, de l'huile ou du vin pour les sirops. Et donc en fait, après, elle stockait toutes ces préparations dans des pots avant d'être servie aux malades.
Je trouve que c'est un très beau témoignage, et puis ça nous invite à aller visiter ce lieu.
Exactement, j'invite pour les plus curieux à venir visiter l'apothicairie de Baugé-en-Anjou. Donc c'est ouvert de mi-avril à début novembre. Et puis, voilà, on peut faire un combo apothicairie, château, le château aussi qui est pas très loin et qui a une nouvelle scénographie très intéressante sur le roi René. Donc n'hésitez pas à venir découvrir tout ça pour en savoir un peu plus.
Eh ben, je vous remercie beaucoup pour cette intervention, Monsieur Guède. Et puis à très bientôt à Baugé-en-Anjou alors.
Avec plaisir. Merci à vous.
Fuyez, soucis qui troublaient ma solitude, fuyez. L'aimable Mélisse vient trouver son poète. Elle s'avance gaiement et couronne mon lait de ses rameaux parfumés. « Chante-moi, me dit-elle, je serai ta récompense. » Plante célèbre, je reconnais ton souffle vivifiant. Il porte dans mon cœur la joie et la sérénité. Ainsi célébrait la Mélisse, un poète anglais célèbre, dont je n'ai pu retrouver le nom, avis aux auditeurs, pour lui rendre hommage à travers ce poème. La Mélisse occupe toujours une place de choix dans la médecine douce. La liste de ses nombreuses propriétés ne cesse de s'allonger au fil des découvertes scientifiques. Antispasmodique, antidépressive, tonique cardiaque, antifongique, puissante antivirale, agissant notamment efficacement contre l'herpès en application cutanée. La mélisse est aussi qualifiée d'accélérateur de l'esprit. C'est une plante cultivée pour l'industrie alimentaire et en herboristerie. Il est possible de la trouver en huile essentielle. À noter que ses effets sont plus importants lorsqu'on l'utilise fraîche. Impossible de terminer une émission sans aborder le chapitre culinaire, car, avant toute chose, la mélisse est une plante délicieuse à savourer crue. Sa richesse en vitamine C et en sélénium, aux propriétés anticancérigènes, en font un excellent complément alimentaire, à peu de frais qui plus est. Très appréciée en salade, avec d'autres herbes ou dans le fromage blanc, on peut aussi la rajouter crue, à la fin de cuisson, dans les plats chauds comme les soupes ou les ragoûts, voire dans une omelette. Elle parfume de façon incomparable vos limonades estivales et vous surprendrez ainsi vos invités. Les Espagnols aromatisent leur lait avec, les Anglais en parfument leur pudding, les Allemands du Brandebourg l'intègrent dans leur recette célèbre de cornichons du Spreewald, détentrice d'une indication géographique protégée, IGP, européenne. Bref, la mélisse a toute sa place dans notre gastronomie. Pour vous mettre en bouche avant de nous quitter, voici quelques recettes de breuvages thérapeutiques à tester grâce à Christelle dans la chronique « Le bonheur est dans les simples ».
Bonjour à toutes et à tous. La mélisse a de nombreuses propriétés thérapeutiques, mais on peut aussi l'utiliser dans d'autres usages. Par exemple, les jeunes pousses de mélisse peuvent être ajoutées dans les salades. Cela leur donne une note citronnée. Les poissons et les légumes cuits à la vapeur sur un lit de mélisse prennent sa délicieuse saveur. On peut aussi aromatiser les desserts et les boissons. Voici quelques idées de recettes pour utiliser la mélisse. En infusion. Pour un litre d'eau, prendre 25 à 50 g de feuilles fraîches et sommités fleuries. Laisser infuser 10 minutes. Boire 3 à 4 tasses par jour pour aider la digestion, calmer la nervosité et favoriser le sommeil. Une idée d'apéritif très frais, le vin de mélisse. Il vous faudra 1 litre de vin blanc sec, 50 g de feuilles de mélisse et 2 cuillerées à soupe de sucre de canne. Lavez les feuilles puis les égouttez soigneusement. Dans un bocal ou une bouteille, versez le vin, ajoutez le sucre et les feuilles de mélisse. Faites macérer pendant 48 heures à température ambiante et à l'abri de la lumière. Au bout de 48 heures, filtrez le tout et versez dans une bouteille. Conservez l'apéritif au frais et dégustez-le dans le mois, à consommer avec modération bien sûr. Et une recette maintenant de vinaigre de mélisse. Là, il vous faudra 1 litre de vinaigre de cidre biologique, 150 g de feuilles de mélisse. Lavez les feuilles de mélisse et coupez-les finement. Prenez un bocal hermétique, mettez-y les feuilles de mélisse, ajoutez 1 litre de vinaigre, fermez le bocal et bien agitez le mélange. Laissez macérer pendant 3 à 4 semaines en remuant régulièrement. Filtrez le liquide à l'aide d'un tamis en pressant bien. Versez le vinaigre de mélisse dans une bouteille, fermez et conservez-le dans un endroit frais. Voilà, maintenant à vous de jouer et bonne dégustation. N'hésitez pas à nous partager vos avis et vos idées sur le site leplanty.fr. À bientôt, c'était Christelle, adhérente du Planty.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre écoute. Vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans notre blog www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts sur radio-g.fr. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. C'était Claudie et Christelle sur Radio G 101.5 FM et nous vous donnons rendez-vous un prochain vendredi à 13h. À bientôt.